poussière d'étoiles. Jeunesse, si tu savais, des témoins, la cellule d'un résistant. 28 août 1941, dans la prison de Fresnes, un jeune officier français de 40 ans écrit, inlassablement, comme il l'a fait depuis le début de sa captivité 8 mois plus tôt. Que faire d'autre dans la solitude ? Prier, lire les confessions de saint Augustin, l'imitation de Jésus-Christ, Polyeucte et bien sûr la Sainte Bible. Et le temps qui reste avant de s'endormir, le consacrer à rédiger des lettres et des carnets à l'intention de sa femme et de ses 5 petits, Marguerite, Monique, Rose, Marc et Philippe, ce nouveau-né qu'il ne connaît pas. À la veille de son exécution, il veut leur dire ce qu'il a toujours fait vivre et au nom de quoi il va mourir. L'homme s'appelle Honoré d'Estienne d'Orves. Il est né en 1901 dans une très ancienne famille provençale. Il est polytechnicien, marin et l'un des premiers soldats de la France libre. Le premier en tout cas à mourir pour elle sous les balles d'un peloton d'exécution. À cause d'espionnage, lit-on sur les affiches des murs de Paris. De sa cellule, Honoré écrit sur un cahier lentement, comme on se souvient, quand il était à la prison du Cherche-Midi, il y a quelques mois, il a entrepris de raconter à ses enfants l'histoire de sa famille, pour qu'ils sachent qui ils sont et d'où ils viennent. Qu'ils n'en tirent nulle fierté, mais qu'ils connaissent les devoirs que leurs conditions leur imposent, noblesse oblige. Il faut faire vite, le temps presse. Honoré leur a parlé de la foi chrétienne, reçue de ses parents et de leur exemple. Il a raconté ses voyages en Indochine, en Amérique du Sud, sur des navires baptisés Jeanne d'Arc, Suffren, Jules Michelet, des noms qui parlent de la France et de sa grandeur dans le monde. Il a la nostalgie de la mer, de l'horizon infini. Dans sa cellule, le voici réduit à quelques mètres carrés. Alors il s'efforce de revenir à l'essentiel. Il lit Valéry, Jules Vallès, Henri de Montfred, l'aventurier de la mer Rouge, et un essai sur Henri Bergson. Et puis Peggy, encore Peggy, où il découvre cette phrase comme écrite à son intention « Mon Dieu, donnez-moi d'avoir envie de vous prier ». Quand il n'a pas de lecture pour s'occuper, il récite de tête ce qui lui revient de son enfance. « J'ai cherché dans ma mémoire et je n'y ai trouvé que des prières ». Demain, les Allemands vont l'emmener, lui et ses camarades de résistance, au Mont Valérien. Il le sait, il n'a pas peur. La peur est derrière lui. Il songe à la mort, celle de son frère chéri, François, emporté par une ostéomyélite en 1918, celle de son père, alors qu'il était en mer, loin de la France. Ce qui l'a le plus chagriné, c'est de n'avoir pas pu être à son chevet. D'abord, on n'a pas gardé le souvenir des derniers jours de l'être aimé, et c'est pendant ces derniers jours où il est déjà tout près du ciel qu'il peut vous faire des recommandations qui portent. Qu'est-ce que la mort ? Un mur infranchissable quand on est seul ? Une espérance sans borne quand on est avec Dieu. Il se souvient encore de sa première communion à Nice, dans la chapelle des Oblats, et de sa confirmation en présence de son parrain, le commandant Drian, auteur de romans patriotiques sous le nom de Danrite, mort lui aussi héroïquement à Verdun. Il se souvient de 1914, de l'avancée des Allemands vers Paris, du départ de la famille d'Estienne d'Orves vers Dreux, puis Saint-Brieuc, sa cathédrale gothique et ses maisons du Moyen-Âge, puis de ses études au lycée Franklin à Paris. Il faut piocher littérature française, latin, mathématiques et aussi prier Dieu pour la France, écrit-il aux enfants pour leur donner l'exemple. Dans sa famille, on est plutôt royaliste. On est fidèle à la mémoire, à ses grands-pères nommés d'Autichan et Suzannet, engagés aux côtés des princes quelques 100 ans plus tôt. Alors on est pour le roi, sans excès, avec constance. Le jour de Pâques, il écrit à ses enfants « Demandez à tante Félicie de vous donner le livre que ma grand-mère a écrit sur son grand-père. Celui-ci, par fidélité pour son roi, est resté en prison pendant tout le Premier Empire. Au temps des croisades, les aïeux de votre maman ont tout abandonné pour aller libérer le tombeau de notre Seigneur. La seule chose qu'il ne leur dit pas, c'est pourquoi lui, depuis presque 1 an, est séparé d'eux. » Cela, ils l'apprendront de la bouche des compagnons de lutte et de souffrance de leur père, bien des années plus tard. En juillet 1940, le lieutenant de vaisseau d'Estienne d'Orves est chef du 3e bureau de l'amiral commandant à Alexandrie. Quelques semaines plus tôt, un général réfugié à Londres a lancé un appel à continuer le combat. Le 10 juillet, avec quelques camarades, il décide de rejoindre De Gaulle. Après un périple par Port Saïd et Aden, il rejoint l'Angleterre. En octobre 1940, à défaut de pouvoir embarquer, il est nommé chef du 2e bureau de l'état-major, chargé des opérations sur le sol français. Puis en décembre, chef du service de renseignement de la France libre, aux côtés de Passy. Il devient agent secret, sous plusieurs identités. Châteauvieux, du nom de l'une de ses aïeules, Kérodan, ou encore Jean-Pierre Girard. Très tôt, il décide de débarquer en France pour mettre sur pied une organisation de renseignement. En décembre, il accoste en Bretagne, à la pointe du Raz. « Me voici de nouveau sur la terre de France », s'écrie-t-il. Cette île, qu'elle sera prochainement son linceul. Aidé d'hommes courageux et décidés, Maurice Barlier, Yann Dornick, André Clément, il crée le réseau Nemrod. Pendant un mois en Bretagne et à Paris, où il prend contact avec la résistance locale, le réseau récolte des informations sur la région et les transmet à Londres. Mais le 19 janvier, son radio, Alfred Gessler, alias Georges Marty, livre à l'Abwehr le réseau du commandant d'Estiendorf. Dans la nuit du 21 au 22 janvier 1941, celui-ci est arrêté dans la maison de ses amis Clément à Nantes, non sans avoir opposé une vive résistance. Sa mission d'officier des forces françaises libres s'achève, commence sa vie de témoin de la vérité. D'Estiendorf est transféré à Berlin, puis est interné à la prison du Cherche-Midi à Paris. Pendant le procès à la cour martiale du Grosse-Paris, rue Saint-Dominique, il couvre ses hommes. « Mettez tout sur mon compte, autant que possible !» au président qui lui demande « Connaissez-vous les risques que vous courriez en acceptant cette mission ?» Il répond « La mort est un aléa du métier d'officier. » Par sa ténacité, il évite à des dizaines de personnes l'inculpation. Le 26 mai, il est condamné à mort avec 9 de ses camarades, dont une femme. La sentence est confirmée le 28 mai par un tribunal militaire français. Les condamnés sont renvoyés dans leurs cellules pour attendre leur exécution. Honoré poursuit son chemin de croix. « Depuis 2 mois et demi, je vis isolé. Je n'ai rien d'autre à faire qu'à penser. Ma pensée va vers Dieu et c'est une prière. » Au fil des jours, il retrouve les cantiques de son enfance. Un regret, on ne l'autorise pas toujours à aller à la messe. Une joie, l'aumônier allemand qui vient lui apporter la communion s'appelle l'abbé Franz Stock, un saint. Le prêtre est touché par la grandeur d'âme du prisonnier. Il lui fait découvrir les écrits de sainte Thérèse de l'enfant Jésus. Honoré d'Estiendorf continue sa montée vers Dieu. Il écrit « Mes enfants, pour avoir le bon Dieu avec soi au jour du malheur, il faut lui avoir fait une place dans votre vie lorsque vous êtes heureux. En prison, il est celui qui croyait au ciel, côtoyant parfois celui qui n'y croyait pas, pour reprendre la formule d'Aragon. Ses compagnons d'infortune, il les exalte par son exemple et par sa joie. Il chante de vieux airs français, il fait chanter les autres. L'échéance approche. Il se purifie. Le 4 juin, il écrit « Je n'éprouve aucune amertume vis-à-vis de ceux qui n'ont pas donné à leur action la même direction que moi. Les circonstances n'ont pas été pour eux les mêmes que pour moi. Et je suis sûr qu'ils n'ont eu comme moi qu'un seul but, la grandeur de la France. » Et plus loin, « Je pense à la vie éternelle que Dieu m'accordera, j'espère. Je pense à mes parents que j'aurai un plaisir humain à retrouver. » Dans le même temps, il se confesse de n'être pas un saint, d'être encore attaché aux êtres de ce monde, à ses enfants, à ses compagnons de captivité. La veille de son exécution, il écrit à sa sœur, lui donne des recommandations pour que des personnes arrêtées en même temps que lui et leur famille soient secourues. Il assiste à sa dernière messe, célébrée par l'abbé Stock, qui témoignera plus tard de la ferveur surnaturelle du condamné. Le 29 août, un fourgon emmène d'Estiendorf, Maurice Barlier et Yvan Dornick au Mont Valérien. Ils sont assis sur leur cercueil. Ils demandent à ne pas être attachés, à ne pas avoir les yeux bandés. L'abbé Stock leur donne sa bénédiction. Le capitaine de frégate Honoré d'Estiendorf est exécuté le premier. Il meurt en criant « Vive la France !» La veille au soir, dans sa dernière lettre à sa sœur, il a eu ces paroles de louange « J'aurais pu être tué au moment de mon arrestation. » Dans quel état moral serais-je mort? Dieu m'a donné ces 7 mois pour me rapprocher de lui, qu'il en soit béni. Retrouvez les poussières d'étoiles sur le net, en audio ou par écrit, poussièresd'étoiles.fm, poussièresd'étoiles au pluriel, .fm.